Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls. Stéthoscope, l'émission à l'écoute de votre santé. Médecins, spécialistes répondront en direct à vos questions.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver dans Stéthoscope, votre rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis de 10h à 11h en direct sur Alger-Chain 3. À la réalisation, Jawid Azekad, à la console technique, Klimo Nessine, à la régie d'antenne, Cyril Abou, pour vous accompagner au micro jusqu'à 11h. Et oui, le sujet du jour dans Stéthoscope, c'est les tendinites. Et oui, on entend beaucoup parler, en fait, le terme exact, c'est tendinopathie, c'est-à-dire maladie du tendon, où beaucoup d'entre vous en souffrent, et c'est même douloureux, très douloureux, et motif de consultation de plus en plus fréquent. Tendinite de l'épaule, du genou, du coude, et j'en passe. Eh oui, on va en parler tout de suite. Comment justement soulager ces tendinites? Quelle thérapeutique peut-on parler de prévention dans ce type de pathologie? Quels sont les gestes à éviter ou à préconiser? Et allez, on vous dira tout de suite tout dans Stéthoscope. J'ai le plaisir de recevoir dans l'émission professeur Shafia Dahou Makhloufi. Elle est chef de service rhumatologie au CHU Ibn Missous d'Alger. Elle est avec nous en direct. Professeur, bonjour.
Bonjour Madame Labou et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous, merci de répondre à chaque fois à l'invitation avec nous. Également dans les studios, professeur Achelet Derbia, elle est rhumatologue libérale. Elle est avec nous en direct. Professeur, bonjour.
Bonjour Madame Labou, bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation.
Avec nous également dans les studios, professeur Jafar Rachida Habib, elle est spécialiste en médecine physique et de réadaptation au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Elle est avec nous en direct, professeur, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Et je disais, professeur Dahou Makhloufi Shafia, elle est chef de service au CHU Beb El Oued. Eh ben, j'ai passé beaucoup de temps à Ibn Missous. C'est pour ça que je parle de Ibn Missous aujourd'hui. Elle est avec nous, elle est à Beb El Oued. C'est une... Enfin, elle a passé très longtemps à Beb El Oued, n'est-ce pas, professeur?
Oui, non, pas de souci.
Alors, c'est Jawida qui m'a reprise. Hein. Elle m'a dit, tu as dit Ibn Missous. Allez, Beb El Oued. Et bonjour à la rhumato de Ibn Missous. Merci de nous suivre. Il est 10h06 sur Alger-Chain 3. Pour toutes vos questions, mesdames, messieurs, le 021-48-15-15, 021-48-15-15. Nous parlons ce matin des tendinites.
Stéthoscope. Toujours là pour vous accompagner.
Eh oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore bonjour, 10h07, réveillez-vous, on parle aujourd'hui des tendinites, beaucoup d'entre vous en souffrent et peut-être même ce matin, alors vous avez des tendinites à l'épaule ou ailleurs, en tout cas l'épaule, c'est la plus fréquente, hein. On en a tous eu des tendinites, on en a encore, et c'est des périodes et quand ça se déclenche, hein, je vous dis pas, hein, ça fait très très mal, c'est douloureux, on sait plus quoi faire, en tout cas on va vous éclairer tout de suite avec professeur Shafia Dahou Makhloufi, elle est chef de service rhumatologie à l'hôpital au CHU de Beb El Oued, elle est avec nous, professeur. Alors, les tendinites.
Oui, bonjour à tous. Enfin, tendinite, déjà, il faudrait qu'on commence par définir le terme de tendinite. Oui. Quand on parle de tendinite, c'est une inflammation du tendon. Le tendon, c'est l'extrémité du muscle qui permet d'attacher celui-ci à l'os. Donc, le tendon, La tendinite, parfois, c'est une inflammation du tendon, mais aussi de la gaine. Parfois, on parle de tenosynovite ou de tendinite. Donc, déjà, pour définir un peu de quoi on parle. La tendinite, elle peut siéger à n'importe quel endroit de l'organe, là où il y a de l'articulation. Ouais. C'est vrai, vous l'avez dit, Madame Labou, vous avez dit que le siège le plus fréquent est l'épaule. Effectivement, ouais. Si on parle de fréquence de tendinite, l'atteinte, la tendinite de l'épaule, elle se situe comme étant la première cause de consultation après les lombalgies, après le mal de dos. Ouais. Donc, c'est dire la fréquence de cette tendinite. Donc, la tendinite, il y a celle de l'épaule, il y a celle du poignet, c'est la tendinite ou tenosynovite de Carvin. Ouais. Il y a la tendinite, on peut avoir une épicondylite au niveau du coude, et on peut avoir celle qui est plus grave, elles sont toutes graves, on va dire, mais celle aussi qui est parfois handicapante également, tout autant que celle de l'épaule, c'est la tendinite achilléenne, c'est-à-dire celle qui touche le tendon d'Achille, qui est fréquente chez le sportif, mais aussi, elle peut être liée également à certaines prises médicamenteuses. Elle peut rentrer aussi dans le cadre de maladies chroniques, donc les tendinites, c'est pas uniquement l'utilisation fréquente de l'articulation, ça peut être lié au microtraumatisme, tout à fait, mais comme aussi ça peut rentrer dans le cadre de maladies inflammatoires chroniques, comme les rhumatismes inflammatoires, les spondylarthrites, les polyarthrites, la fibromyalgie, etc. Ça peut aussi rentrer dans le cadre de certaines maladies génétiques, comme l'hyperlaxité ligamentaire. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, qui se luxent facilement l'épaule et qui sont atteints d'hyperlaxité ligamentaire ou d'autres maladies congénitales. Ça peut également être lié à une toxicité du tendon direct, et ça a été démontré. Il y a beaucoup de publications concernant certains antibiotiques, certaines classes de fluoroquinone, que je ne détaillerai pas ici, qui peuvent être également très toxiques pour le tendon. D'autres médicaments également, comme ceux qui sont utilisés qui ont été utilisés par certains sportifs et qui pourraient, pour augmenter leur capacité physique, qui peuvent également être très toxiques pour le tendon. Alors d'autres produits également, comme les statines. Donc il y a plusieurs médicaments qui favorisent les tendinopathies. En matière l'étendue des étiologies est très vaste. Voilà. Donc il y a aussi, à côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle, nous, le vieillissement du tendon. C'est clair que quand les personnes sont âgées, la constitution du tendon s'altère avec le temps. Il n'y a plus cette richesse en protéoglycane. En collagène, tout à fait. Ouais. Et les fibres élastiques ne sont plus ces fibres qui sont très, très souples, comme chez le jeune. Bien sûr, l'activité physique, les microtraumatismes. J'ai quelqu'un qui n'a jamais travaillé ou une personne âgée qui ne bouge pas beaucoup et à qui on demande un effort inadapté, ça aussi c'est quelque chose qui est source de tendinopathie.
Oui, en plus on dit aujourd'hui que c'est un motif de consultation de plus en plus fréquent, comme vous l'avez si bien dit, professeur. On voit encore de plus en plus de jeunes, vous l'avez dit.
Oui,
hein.
Bien sûr.
On parlait de la personne âgée il y a des années et tout, mais maintenant, ils sont jeunes, ils vous disent on a très mal à l'épaule. Et quand ils consultent, c'est une tendinopathie. Tendinites, oui.
Oui, je vous ai cité les pathologies d'origine génétique, génotypique, je vais dire. Exemple, la maladie de celle que l'hyperlaxité ligamentaire, la maladie de Marfan. Donc, ce sont des pathologies qui sont fréquentes et dépistées chez le jeune. Et chez le jeune aussi, il y a le sport, il y a l'activité sportive. Il y a beaucoup de sports. Je citerai comme ça le volley, je citerai le tennis également, qui peut être source de tendinopathie de l'épaule, mais aussi du coude. Ce sont des exemples simples, mais le football, toutes les activités sportives peuvent être également source de tendinopathie. On ne va pas dire qu'il faut éviter le sport, pas du tout, mais il faut être adapté et entraîner avant de commencer une activité intense.
L'échauffement avant d'aller vers... Justement, elle est d'accord avec moi, professeur Habib, justement, Habib Jaffar, qui est chef de service, rééducation fonctionnelle, justement, à l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger. Elle est avec nous en direct. On va revenir un petit peu sur la rééducation dans un petit moment, avant de faire intervenir professeur Derbia Ashley, qui est aussi rhumatologue. Elle est spécialiste en rhumatologie libérale. C'est important d'avoir le côté privé, on le dit dans cette émission, le privé est un excellent relais de la prise en charge. Les hôpitaux sont là pour traiter les grosses pathologies et tout. Parfois, les hospitalisations, etc., un peu dépassées aussi par le nombre important. Hein. Tout le monde va vers l'hôpital. Mais il y a aussi, et heureusement qu'il y a le privé aussi, qui est là pour soulager un peu le public. Et docteur, professeur Hachelet, vous êtes d'accord avec ce que dit justement professeur Dahoum Khloufi quand elle parle justement de tendinite, en fait, de tendinopathie. Hein. Vous, les médecins, vous parlez plus de tendinopathie, c'est le terme exact, mais bon, tendinite, ça se dit aussi. Mais pour dire aujourd'hui que c'est un motif de consultation. Et qu'est-ce qui est grave dans une tendinite, en fait?
Donc, comme vous venez de le dire, le terme le plus utilisé actuellement, tendinopathie, parce que dans le terme tendinite, le it, c'est en faveur, c'est-à-dire de l'inflammation, or qu'il n'y a pas uniquement une inflammation,
pas l'inflammation
qui caractérise cette pathologie. Donc, il y a aussi, en général, c'est des douleurs mécaniques qui siègent au niveau du tendon, d'accord, qui apparaissent lors du mouvement. D'accord. Surtout au début ou bien à la fin de ce mouvement. Et la caractéristique de cette douleur, c'est-à-dire, elle survient toujours lorsqu'on fait le même geste. C'est le même geste. Donc, c'est une douleur qui réapparaît au même mouvement, au même geste. Ce qui est grave, c'est-à-dire maintenant, au début, si le diagnostic est fait précocement et la prise en charge, elle est correcte, normalement, la tendinopathie guérit. Donc, il faut absolument, quand on a cette douleur qui persiste, il faut consulter le médecin. Il ne faut pas se dire, c'est une tendinite et on consulte pas. Il faut absolument consulter et le diagnostic sera posé qu'après un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Et parfois, bien sûr, on fait céder par l'imagerie. Entre autres, l'échographie qui est devenue le stéthoscope du rhumatologue et aussi du médecin physique qui nous permet exactement d'évaluer l'importance de l'atteinte de cette structure qui est très importante pour la réalisation des mouvements. Donc parfois, ça s'accompagne avec une gêne fonctionnelle très, très importante. Et je rajoute un petit peu aux étiologies qu'elle a citées le professeur Dahou, c'est surtout les mauvaises postures. Il y a aussi, quand le plan de travail n'est pas adapté, et je parle surtout des femmes au foyer qui restent des heures et des heures dans la cuisine, dans des mauvaises positions et tout ça. Donc tout ça engendre bien sûr un surmenage de ce tendon et qui finit, comme elle vient de le dire, après la répétition de ces gestes-là, il s'abîme parce qu'il joue un petit peu le rôle d'un comment dirais-je, c'est un câble biomécanique, c'est comme une corde, à force de l'utiliser et de faire des exercices, c'est-à-dire des forces inadaptées, donc il termine par s'abîmer avec le temps.
Donc, on parle même de rupture du tendon parfois.
Oui,
c'est très fréquent chez le sportif,
mais
ça peut être aussi chez n'importe qui d'entre nous. Hein. On peut avoir une rupture de tendon sans le savoir.
En général, ça commence par des micro-lésions. C'est des micro-lésions tout à fait au début. Après, bien sûr, si on continue à faire des efforts physiques intenses et on se donne pas des périodes de repos et on n'adapte pas l'activité, c'est tout à fait normal qu'il va terminer par se rompre. Et en général, ça donne des douleurs très très aiguës, très intenses, avec une impotence fonctionnelle. Voilà, donc l'idéal, c'est de ne pas arriver à ce stade.
Oui, d'accord. Oui. 10h06 sur Alger Channel 3, nous parlons des tendinites, particulièrement celle de l'épaule qui nous embête un petit peu, particulièrement nous les femmes qui sollicitons beaucoup nos mains, hein, on travaille le matin, le soir, les enfants, etc. Et franchement, c'est pas toujours rose hein, pour nous, les mamans et les femmes en général qui sollicitent donc leurs bras, leurs mains, les jambes, tout, hein, parce qu'on est là, on s'arrête pas. Allez, pour toutes vos questions, mesdames, messieurs, le 021-48-15-15, vous pouvez poser vos questions. Les spécialistes ici présents feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, on parle pas comme ça des tendinites dans le vide, hein. On veut bien apporter des solutions et dire quelle est la thérapeutique, hein, de ces tendinites, hein. On sait plus quoi faire, on est là, on se dit peut-être on va mettre une petite pommade pour soulager, on a très peur de la chirurgie, on se dit on n'a pas envie d'aller voir un médecin, on a peur, hein. Mais en fait quand on est obligé, eh ben on est obligé, hein. Mais avant ça on peut parler de rééducation. Est-ce qu'on peut parler de rééducation dans ce type de pathologie, docteur professeur Jaffer Habib?
Donc il faut les prendre très tôt en rééducation, dès que le diagnostic est posé.
Oui.
Donc
je suppose que c'est le rhumato Dahou, professeur Dahou et professeur Haché qui orientent donc vers
très souvent les malades sont effectivement très souvent les malades sont orientés, donc ils viennent chez nous avec une lettre d'orientation,
voilà, ouais.
Où c'est indiqué que le patient présente une tendinopathie, donc il faut le prendre précocement comme ça a été dit, donc pour ne pas arriver à un gène fonctionnel. Donc il y a plusieurs protocoles protocole thérapeutique à proposer, ouais. Donc en fonction de voilà de la période, de stade de la lésion. Donc s'il arrive précocement, je peux parler du protocole. Donc s'il arrive les premiers jours, c'est-à-dire la première semaine, donc on peut préconiser un repos, juste un repos, et on peut mettre même une orthèse, par exemple comme ça a été cité, la tendinite de Dekervin, peut mettre une orthèse de repos portée, par exemple, les trois premiers jours, 24 heures sur 24, et puis elle sera portée la nuit. Comme il y a les premiers jours, il y a une inflammation, on peut préconiser le glaçage. Exactement. Après, au-delà de la première semaine, on peut changer de thérapeutique, on peut faire, en plus des glaçages, on peut associer la physiothérapie telle que les ultrasons, on peut associer également des étirements, qui doivent être passifs, non douloureux. Et puis quand normalement le patient il est suivi chez nous, quand on arrive après J21, on peut commencer vraiment la kinésithérapie qui consiste à faire des étirements, des renforcements musculaires qui se fait par contre en excentrique. Donc c'est une spécialité que c'est-à-dire que nos kinés
connaissent bien.
Et puis on fait par un travail proprioceptif.
Donc ça donne des résultats.
Oui.
Ah très bien.
Après on a d'autres thérapeutiques, on parlera tout à l'heure.
Très bien. On va prendre un appel de Souhila qui nous contacte depuis Alger. Souhila, bonjour. Merci de nous appeler au 021 48 15 15. Profitez, les spécialistes ici présents feront un plaisir de répondre à vos questions. Si vous souffrez de tendinite ou votre entourage en souffre, eh ben, vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. Souhila, bonjour.
Bonjour madame.
Ça va Souhila?
Bonjour médecin. J'ai fait une chute. Oui. J'ai été opérée, on m'a placé une prothèse intermédiaire. J'ai eu un allongement de 2 cm et puis aussi on m'a touché le nerf du grand sciatique. Je n'ai pas arrêté de faire la rééducation depuis presque 16 mois. Et bon, quand j'ai vu...
Qu'est-ce que vous avez fait comme problème, Souhila? En fait, c'est pas une tendinite.
Tendinopathie des moyens fessiers. Mais justement, j'ai commencé par comprendre.
Tendinopathie du fessier, c'est vraiment.
Du moyen fessier, deux moyens fessiers. Surtout tendinopathie microcalcifiante des moyens gluteaux plus marqués à droite. Donc, moi, j'ai fait l'opération à droite.
D'accord.
Voilà, j'ai commencé dès le début pour comprendre comment c'est venu. En faisant la rééducation chez un kiné, il m'a placé. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est comme ça que j'ai eu cette tendinopathie. Surtout du côté opéré, il m'a placé du poids avec la poulie. Avec la poulie. Donc, je pense que c'est dû à ça. J'ai forcé pour la rééducation, pour le renforcement des moyens fessiers. Maintenant, j'ai mal, je place des poches de glace à la maison, je fais toujours de la rééducation, on m'a arrêté le renforcement, maintenant je fais de la rééducation, c'est un autre protocole.
Oui.
Et voilà, donc je ne sais pas, j'ai toujours une douleur quand je suis debout.
Est-ce normal? Vous posez la question, est-ce normal justement d'avoir cette douleur qui dure Souhila, la douleur? Allô, oui, Souhila, vous êtes avec... Ça fait combien de temps que vous souffrez comme ça après l'intervention?
Après l'intervention, ça fait 16 mois depuis que j'ai été opérée, mais pour la douleur du moyen fessier, bon, j'avais toujours de la douleur, mais du quadriceps, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre, mais du côté du moyen fessier, maintenant la douleur, elle est uniquement au niveau du moyen fessier. J'ai fait de l'échographie, j'ai fait la un scanner.
C'est bon.
Bon, comme je vous ai dit, c'est la tendinopathie microcalcifiante. Ah, voilà. Des moyens glutéaux plus marqués à droite.
D'accord. Vous avez quel âge, Souhila?
59 ans.
Vous êtes jeune, hein? Et vous êtes forte, vous êtes de corpulence un peu...
Je suis grande de taille, je fais 1m70.
Allez, on va calculer votre IMC alors. Vous avez
1m70 et 80 kilos.
C'est beaucoup un peu, hein. Vous êtes en surpoids.
En surpoids.
Ouais, en surpoids, et peut-être qu'il faut travailler sur ça aussi, hein, celui-là.
Il faut essayer de... Non, mais problème maintenant, comme j'ai été opérée, comme j'ai la prothèse et j'ai un allongement problème. Maintenant, c'est difficile, hein. C'est difficile. Je ne marche plus comme avant. Je marche avec une canne.
Je
peux pas, c'est pas facile de perdre, à mon âge, j'ai vu mon problème de santé. C'est pas facile.
Oui, voilà. On va vous répondre. Bon, vous n'avez pas d'autres maladies chroniques à associer, non, à côté, non? Non.
J'ai la maladie de, j'ai la Shimoto et la bière-mère.
D'accord.
Maladie
auto-immune, oui.
Des maladies auto-immunes. Du conseil, qu'est-ce qu'il faut faire?
On va vous conseiller, Souhila.
Voilà, pour la rééducation, pour les gestes à faire, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour l'émission, pour les médecins, pour les... toute la présence.
Merci. Merci à vous. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur Alger Chaîne 3 tous les samedis de 10h à 11h au 021-48-15-15. Nous parlons aujourd'hui justement des tendinites, ou ce qu'on appelle, hein, pour les médecins et les professionnels de santé, les tendinopathies, qui nous embêtent beaucoup, et plus que ça, parfois elles sont invalidantes et nous gâchent un petit peu la vie. Franchement, altèrent énormément la qualité de vie. Et on est là pour, justement, on est là pour vous conseiller, hein, voir un peu, est-ce qu'on peut parler de prévention, est-ce qu'on peut parler, justement, quelles sont la thérapeutique. En attendant, nous allons prendre un autre appel de Sadir qui nous contacte depuis Oran. Sadir nous contacte au 021-48-15-15. Sadir, bonjour.
Bonjour madame, comment allez-vous?
Alhamdoulilah, et vous-même, Sadir, tout va bien pour vous?
Ça va, j'essaie, j'ai du courage, mais...
Oh là là, on sent là une
plaine.
Ne suit pas, quoi. Il ne suit pas. Allez, c'est quoi le problème, Sadir?
Madame, moi, j'ai un problème, je ne sais pas, rhumatismal, je pense.
D'accord.
Il est d'abord rhumatismal. C'est la ceinture, tout le tour de la ceinture qui descend vers les membres inférieurs, qui me fait mal. Quand je m'abaisse sur une toilette hachec, ou là un lavabo, bien sûr, pour faire des toilettes, je ne peux plus me relever. Et tous les muscles des membres inférieurs me font mal. J'ai fait des radios, j'ai été chez une ostéopathe, déroulé de comment on appelle ça, c'est pas de la rééducation, c'est du massage. C'est du massage avec quelque chose qu'on m'a fait à repasser des années 50 de ma pauvre mère, la Rahama. Sauf qu'il est électrique sur les pieds, mais le tête, parce que j'avais mal. Mais aujourd'hui, c'est cette ceinture-là qui fait vraiment mal. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire.
Oui, donc vous avez consulté. Bon, c'est pas une tendinite, c'est pas le sujet du jour, mais on va vous répondre quand même, hein, Sadira. On va profiter de la présence des rhumatos avec nous ici dans les studios. On va pas vous laisser comme ça sur votre faim. Hein. Allez, on va vous répondre dans un petit moment, hein, si vous permettez, le temps de revenir un petit peu sur ces tendinites pour voir un peu la thérapeutique adaptée. Hein. Parfois, on parle beaucoup aujourd'hui de tendinite, mais on ne sait pas franchement quoi faire, on est perdu et on va sur les réseaux sociaux. On a fait une émission sur ça, attention, mais alors là, attention sur les informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux. qui sont pas toujours vraies, hein. On exagère beaucoup. On a parlé du droit, de l'éthique, de santé, etc. dans cette émission pour dire qu'il n'y a pas mieux que le professionnel de la santé pour vous orienter, pour vous soulager, pour vous donner ce qu'il faut, hein, comme thérapeutique. Et justement, quand on parle de tendinite, professeur Dahou Chafia Makhloufi, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle beaucoup d'infiltration ces derniers temps, c'est très en vogue. Je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais dès qu'il y a un problème, les infiltrations, ça fait des miracles, hein. On se dit, ah tiens, je fais une infiltration, ma voisine, ma cousine, mon ami a fait une infiltration et ça a donné comme pas possible et ça donne d'excellents résultats. Imaginez-vous avec une douleur qui ne cède pas des jours et des jours, la nuit vous ne dormez pas, l'épaule qui fait mal, le genou, etc. Et on vous propose une solution comme ça. Moi, je prends, hein. N'est-ce pas, professeur? Moi, je prends. Même si j'ai peur de l'aiguille, mais quand je dis que la douleur va cesser, hein, on se dit, pourquoi pas, on essaie l'infiltration qui ne dure que quelques minutes. Et allez, avant de répondre à cette question, on va privilégier peut-être l'appel. Othmane qui nous appelle d'Alger. Othmane, bonjour.
On va privilégier peut-être l'appel.
Othmane, est-ce que vous pouvez éteindre, s'il vous plaît, la radio, votre transistor, si vous permettez, parce que là, on s'entend pas très bien.
Bonjour, j'ai éteint.
Très bien, vous avez bien fait.
Sabah al-khair.
Sabah al-nour.
Comment allez-vous, mesdames et professeurs?
Ça va?
Voilà. Merci. Juste une question à poser.
Oui.
J'ai une tendinite que depuis quelques mois.
Oui.
J'ai été chez le radiologue, j'ai fait la radio et l'écho. Donc il me dit que vous avez une tendinite, une ancienne tendinite et qui est actuellement chronique.
Oui.
Oui.
Donc la question, est-ce que ça ne guérit pas? C'est ça, en fait.
Et pour l'instant, dites-nous, Othmane, vous avez mal?
Surtout, madame, j'ai mal, j'ai toujours mal parce que je conduis toujours sur la main gauche. Donc, je tiens le volant. Donc, j'ai mal, mais pas comme avant, hein, mais pas comme avant.
Et qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas avoir mal comme avant? C'est comme ça, hein. En fait, c'est des poussées, hein, c'est ça, hein. On a mal une période et puis ça disparaît, ensuite ça revient, on sait ce que c'est.
C'est la première fois depuis des mois que ça a disparu. Ça fait 15 jours, ça n'a pas disparu. Ça a diminué.
Oui.
Ça a diminué.
Ça diminue de l'intensité de la douleur, oui.
Voilà, la douleur n'est pas la même et il paraît que le mal s'installe quand on la guérit pas.
Oui, vous, en fait, j'ai compris, hein. Ce qui vous gêne, c'est le mot chronique et c'est la chronicité, hein. Vous avez peur que ça dure dans le temps et que ça devienne à vie. C'est ça qui vous embête. J'ai compris.
Il y a un autre facteur, c'est que j'ai 57 ans.
Oui.
Donc, je suis pas jeune. Je ne fais pas de sport. Et c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. Simplement.
Oui. Alors on va vous conseiller tout de suite dans l'émission avec les spécialistes ici présents. Merci Othmane, merci de nous appeler au 021 48 15 15. Nous parlons aujourd'hui des tendinites, ce qu'on appelle communément les tendinopathies. Voilà, professeur, moi je voudrais peut-être avant de répondre à Othmane, revenir sur la question phare, hein. C'est la thérapeutique, hein, quand on parle de thérapeutique, moi j'ai parlé un instant, parce que le temps, parfois on est pressé d'avoir un résultat, on se dit on va à l'air éducation, on va pas chez professeur Jaffa, ça va prendre du temps, et ça va prendre du temps. On veut un effet miracle. Et franchement, on dit que l'infiltration c'est miraculeux. Vous rentrez, on vous injecte cette infiltration, c'est une injection, hein. C'est un produit qu'on s'injecte, enfin, on s'injecte pas, qu'on nous injecte, un professionnel de santé qui nous injecte, et puis, l'effet est tout de suite, c'est un miracle, hein. Très bien. Allez, on va prendre un autre appel de qui, de, me dit-on? Zoher nous contacte depuis Guelma. Allez, on va prendre un autre appel. On va privilégier les appels, on va passer rapidement les appels, comme ça on va répondre à tout le monde. Zoher, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Zoher, de Guelma, hein. Vous appelez de Guelma. Hein.
Je voudrais essayer beaucoup de cette belle émission.
Merci à vous de nous suivre depuis Guelma.
C'est très intéressant, Lahibark.
Allez-y, Zohir, posez votre question.
Moi, j'ai provoqué une tendinite en faisant du sport.
Oui, ça c'est fréquent, oui.
Vraiment, je ne dormais pas la nuit du tout. Alors j'ai fait...
Une tendinite à quel niveau? Au niveau de l'épaule?
Oui, l'épaule gauche.
Oui.
J'ai beau pris des médicaments et ça n'a rien donné. Alors, j'ai fait une infiltration.
Oui, on parlait d'infiltration.
Si je peux dire le médicament ou pas, mais j'ai fait une infiltration. Mais ça va.
Ça soulage quand même.
Ça soulage. Mieux qu'avant, mais maintenant je dors. Mais j'ai une petite question. Des fois, ça me provoque des petits picotements. Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal ou pas.
Ça fait combien de temps que vous avez fait les filtrations, Zohir?
Ça fait 6 mois. J'ai fait 2 infiltrations. Mais sincèrement, ça m'a vraiment soulagé.
2 infiltrations en 6 mois, oui. Oui, ça soulage. Pour soulager, ça soulage.
Je ne dormais pas la nuit, sincèrement. Mais maintenant.
Et vous avez fait vos infiltrations chez qui?
Au CHU de Gaillement. Et si vous permettez, je voudrais remercier monsieur le docteur Zaghi.
Ah, d'accord.
Vraiment, il a une main d'or. Et tout à l'heure, vous avez incité l'infiltration à l'aiguille. Vraiment.
On va revenir sur ça pour dire que c'est pas n'importe qui.
Oui. Sincèrement, j'ai rien senti.
Oui, écoute, merci. On va vous répondre pour les picotements que vous avez, Zohir, qui ne sont pas très graves. Mais on va aussi parler de l'infiltration pour dire, en fait, qui doit justement pratiquer cette infiltration. Ce n'est pas tout le monde. Attention, il faut être quand même averti, n'est-ce pas, professeur? Alors, on va parler d'abord de l'infiltration, si vous permettez, oui. Professeur.
Donc, vous ne répondez pas aux patients? Est-ce que vous répondez aux patients ou pas? Parce que la dame qui a soulevé cette douleur du moyen fessier...
On va commencer par répondre. Allez, okay. On répond et ensuite on revient à l'infiltration.
Parce que vous parlez d'infiltration, et la tendinite du moyen fessier, si c'est extrêmement douloureux, c'est très douloureux d'après ce que la dame a rapporté, je pense qu'il faut... Il y a l'infiltration qui est indiquée. Si les séances, l'application de glace, elle a dit j'applique de la glace. Si tous les moyens physiques sont inefficaces, les traitements par voie générale sont inefficaces, il est important d'infiltrer. On peut infiltrer sous échographie, on peut infiltrer en respectant les règles d'asepsie, et ça pourrait soulager la malade. Parce que l'inflammation est là. Quand on parle de tendinite, c'est qu'il y a une inflammation du tendon. Le tendon, c'est une structure. Après, il y a des modifications au niveau de la structure du tendon. C'est normal qu'après, ce n'est plus... L'inflammation peut être estompée. Donc, c'est pour ça qu'il faut opposer 2 tableaux. Il y a la phase aiguë, comme disait tout à l'heure le professeur
Jaffer.
Mon ami Jaffer, professeur Jaffer, concernant l'importance du repos, parce que le repos il n'est pas tout le temps préconisé. Oui. Au début, il y a la phase inflammatoire. Donc, il faut d'abord faire disparaître cette inflammation, respecter le repos. Et c'est pour revenir justement aux moyens physiques de réadaptation, de rééducation, mais aussi à l'infiltration. C'est là, pour vous répondre un petit peu à votre question, c'est là que se pose l'intérêt de l'infiltration aux corticoïdes.
C'est une indication.
Ouais. L'infiltration aux corticoïdes, pourquoi? En fait, en péritendineux, ne jamais infiltrer le tendon pour éviter le risque, parce que le risque de rupture, il est avec l'infiltration du tendon. C'est pourquoi, et vous l'avez bien dit, l'infiltration ne doit pas être faite par n'importe qui. Elle doit être faite par un médecin averti, en respectant les règles d'asepsie, en utilisant un corticoïde rapide, à libération rapide, et non pas un corticoïde retard, parce que ce sont les corticoïdes retard qui peuvent justement favoriser la rupture du tendon. Bien sûr, en respectant toujours les règles d'asepsie.
Qui doit pratiquer cette infiltration?
Bien sûr,
respect à tous les médecins, mais bon, là quand même, c'est quand même spécialisé, professeur Dahou, n'est-ce pas?
Donc, avec le respect de tous mes confrères, le rhumatologue est au premier plan, parce que le motif de la consultation de l'épaule douloureuse, je prends l'exemple de l'épaule douloureuse ou de la tendinite de Carvel, le malade va vers le rhumatologue. Donc, le rhumatologue, en première position. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nos amis et confrères de réadaptation fonctionnelle sont aussi habilités à faire des infiltrations pour faciliter justement la rééducation. Mmh. Bien sûr, je sais que qu'actuellement, il y a d'autres spécialistes qui...
Les orthopédistes
dans certaines situations, quand ils sont obligés, parfois...
C'est pas tout le monde. Mais
oui, oui, je sais, ce n'est pas tout le monde. Ouais. Donc, voilà en ce qui concerne la corticothérapie. Ne pas infiltrer trop fréquemment. Parce que le malade a été infiltré deux fois, c'est très bien. En six mois, j'ai été infiltré, c'est pas beaucoup. Mmh. Il l'a dit lui-même, il a témoigné, il a dit, j'ai été nettement amélioré. Et c'est très bien. Si le traitement par voie générale n'a pas donné qu'il est amélioré, c'est bien. D'autant plus que c'est un sportif, il pourra reprendre son activité sportive ultérieurement. Il faut pas oublier qu'il y a aussi la structure du tendon qui va être modifiée. Ce n'est plus le même tendon qu'initialement. Mmh. Parce que en matière de corticothérapie, c'est assez controversé. D'un côté, ça soulage quand il y a l'inflammation, et d'un autre côté, ça a l'effet inverse. Parce que parfois, vous allez voir, beaucoup de gens vous diront, quand on infiltre beaucoup, on peut rompre le tendon. Et c'est normal. Il faut faire très attention pour ne pas aller avoir la main facile pour infiltrer. On traite d'abord par voie générale, et ensuite, s'il y a échec, là, on fait appel à l'infiltration. Mais ne pas avoir la main facile, allez, j'ai mal à l'épaule, j'infiltre. Non.
Ça peut pas être la première solution.
Exactement. Il faut laisser ça en dernier. Parce qu'aussi, il y a d'autres artifices, il y a d'autres moyens. Hein. Si c'est un jeune qui fait une petite fissuration, vous savez très bien que maintenant il y a le plasma riche en plaquettes. Oui. Certains utilisent le PRP.
Le PRP, on l'utilise partout, même en esthétique. Oui. c'est très en vogue, le PRP. On injecte son propre sang, professeur.
Oui, c'est le prélèvement de son propre sang. Bien sûr, c'est en dehors de tout contre-indicat, indication, excusez-moi, si un malade prend des anticoagulants, c'est pas intéressant. Malade qui prend des médicaments. Donc, les médecins savent très bien qu'est-ce qu'il faut. En respectant les contre-indications, on prélève le sang du malade, on le centrifuge rapidement avec un appareillage qui est adapté. Et ensuite, ce plasma qui est riche en plaquettes, on l'injecte au niveau du tendon qui est lésé. Bien sûr, une épaule dégénérative, le plasma, ça ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais par contre, chez un jeune sportif qui a une petite lésion, pourquoi pas? C'est intéressant. Voilà.
Oui,
après, il y a des études qui sont en cours. Hein,
C'est innovant, oui. Voilà. Donc, professeur Jaffal, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais intervenir.
Abonder peut-être dans le même sens, professeur.
Dans le même sens, pour dire avant le traitement invasif, c'est-à-dire les infiltrations, on peut préconiser la mésothérapie.
Bien sûr, bien sûr.
C'est juste injecter en local un anti-inflammatoire.
Ouais.
Donc, c'est en général, ça donne très bien.
Il y en comme a qui ne sont pas vraiment d'accord pour l'anti-inflammatoire, l'estomac, etc.
Non, c'est quelques gouttes. Moi, je suis médecin mésothérapeute. Donc, on met carrément presque un cc de xylocaïne, j'allais dire de la lidocaïne, et jusqu'à 10 gouttes de feldène. Au contraire, c'est préconisé pour les gens qui ont des contre-indications aux anti-inflammatoires, comme la patiente qui présente une tendinite du moyen fessier. J'aurais déjà chez elle d'abord la mésothérapie, après si ça donne pas, on peut faire des infiltrations et elle doit arrêter la rééducation. Je suis désolée, elle a des douleurs, c'est pas la peine de créer encore d'autres douleurs avec la kinésithérapie. Par contre, comme l'a dit professeur Dahou, il faut un repos. Un repos relatif.
Oui. Donc,
je voulais parler de la mésothérapie.
Merci, mes chers amis. Aussi les massages.
C'est des massages qui sont spécifiques. C'est le massage transversal profond.
C'est ça.
Voilà, qui se font par un kinésithérapeute qu'on peut apprendre au patient pour le faire lui-même. Donc, c'est des massages qui se font perpendiculairement au tendon.
En matière de tendinite du moyen fessier, c'est assez profond. Et donc, l'infiltration, à mon avis, est une alternative intéressante. Parce que, je pense que...
Après,
c'est au cas par cas, c'est au médecin spécialiste de décider sur place. Effectivement, on peut associer, comme tu dis...
On peut commencer par la méso, si ça ne donne pas. De toute façon, il y a des protocoles. Si ça ne donne pas au bout de trois injections, on arrête. Et on parle d'échec thérapeutique et on passe aux infiltrations.
Qui nous a appelé, avait parlé de tendinite et il s'est fait infiltrer et il avait dit que c'était miraculeux. C'est vrai que ça l'a soulagé parce que la tendinite, ça fait très très mal, c'est très douloureux. Et quand on sait qu'il y a un médicament qui peut arrêter la douleur, oh mon Dieu, ça c'est super, ça améliore nettement la qualité de vie. Et mais il dit que malgré l'infiltration, bon, ça l'a vivement soulagé, mais il y a justement ce picotement. Est-ce normal, professeur Achelet?
En tout cas, c'est-à-dire en plus de cette infiltration, ça ne suffit pas seul. Il faut bien sûr faire de la rééducation. Il faut éviter les efforts physiques. Il faut, c'est-à-dire adapter son activité physique. Il faut pas qu'il fasse des efforts énormes. Et surtout, comment dirais-je, il faut qu'il y ait une réadaptation ou bien c'est-à-dire que ce tendon doit être remis, si vous voulez, en fonction progressivement. Il faut pas qu'il fasse des mouvements intensifs. C'est-à-dire, c'est bien que la douleur est disparue, donc il a été soulagé sur plan douleur, mais il faut qu'il continue la prise en charge, c'est-à-dire faire de la rééducation, le renforcement. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est le renforcement de son tendon progressivement, bien sûr, progressivement, je le dis très bien, progressivement. L'épicotement, peut-être, il n'est pas complètement encore guéri, justement. Donc il faut absolument qu'il adapte son activité physique, qu'il peut reprendre son sport progressivement.
Très bien.
Et bien sûr, renforcer ses tendons.
Très bien. On va revenir justement à tout ça pour vous dire, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'en cas de tendinite, est-ce qu'il faut solliciter ce membre ou pas? C'est ça aussi la grande question. Est-ce qu'il faut se mettre au repos ou au contraire faire bouger cette main qui ne doit pas rester comme ça? Là, c'est vraiment un débat, n'est-ce pas, professeur Dahou? On va répondre, on va juste prendre un dernier appel, peut-être de Mariam qui nous contacte depuis Alger. Mariam, bonjour.
Bonjour.
Ça voilà. Va, Mariam?
Oui, j'ai 66 ans. J'ai fait une calcification tendineuse d'une épaule et une autre, puis l'autre à 5 ans d'intervalle. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment se fait le processus de calcification, comment le calcium, ou c'est ça, c'est bien le calcium qui vient se coincer. Je l'ai vu, moi, quand j'ai fait les échographies, des petites pierres comme des petites pierres qui se coincent dans les tendons de l'épaule. C'était incroyable. Je me suis dit, mais comment ce processus se fait-il?
Ah oui, c'est la médecine, c'est franchement très complexe. On va vous répondre, c'est votre question, Mariam.
Oui.
Merci Mariam de nous appeler au 021 48 15 15. Moi, je pense qu'on commencera. Bon, j'ai posé une question quand même que beaucoup, en fait, d'entre vous peut-être se posent. Hein, je la pose à votre place. Quand on a une tendinite, faut-il se mettre au repos ou solliciter ce bras? En fait, on ne sait pas quoi faire. Il y en a qui vous disent, bon, non, je préfère ne pas trop bouger ma main. Peut-être que c'est là l'indication. Je me mets au repos. D'autres médecins vous disent non, au contraire, il faut pas quand même que cette main soit mise au repos comme ça longtemps. Il faut peut-être la bouger. Professeur Dahou.
Oui, pendant la phase aiguë, on l'a dit tout à l'heure, oui. La période où il faut soulager le malade. Là, il faut immobiliser l'articulation. C'est pendant ça. La période aiguë, très douloureuse. Mais ensuite, bien sûr, le malade ne va pas rester. Non, il faut compter, renforcer les muscles, orienter le malade vers le médecin de réadaptation fonctionnelle pour justement libérer cette épaule et pour entretenir l'aspect musculo-tendineux, parce que c'est vrai que même le tendon se renforce, parce qu'on a tendance à dire renforcement musculaire, mais aussi, effectivement, les élongations, l'entretien, justement, de la souplesse articulaire. C'est important. Donc, je pense que le repos est relatif. C'est en une courte durée,
d'accord.
Ça n'est pas tout le temps.
Très bien. Donc, mesdames, messieurs, quand vous avez trop mal, donc immobilisation, ne bougez pas, mettez-vous au repos, mais après, il faut faire bouger aussi ses membres et ses mains, et peut-être aussi tendinite du genou, parfois on n'arrive pas à monter les escaliers. Alors, les petits conseils qu'on peut donner comme ça, rapidement, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'on veut des solutions, en fait, dans cette émission. On a un petit peu parlé de la tendinite, du jour de la tendinite, en fait, qu'est-ce qu'une tendinite, l'étiologie, etc., la thérapeutique, mais en fait, aujourd'hui, on a envie d'écouter, mesdames, les professeurs qui sont avec nous aujourd'hui, les conseils qu'on peut donner, peut-être, docteur Jaffar, vous qui êtes médecine réadaptation,
Justement, quand on fait beaucoup d'activités, donc on sollicite beaucoup ces articulations. Et ses muscles. Donc, quand il y a une faiblesse musculaire, donc très souvent, c'est déjà une faiblesse musculaire parce qu'au lieu que la charge agisse sur les muscles, elle va agir sur les articulations et sur les tendons. Oui. Donc, il faut avoir de bons muscles pour éviter toutes les tendinites.
Et comment avoir de bons muscles?
Il faut faire une activité physique.
Quelle est la meilleure activité?
Par exemple, on a parlé du tendinite du genou. Il faut renforcer son quadriceps. Moi, je donne un exemple. C'est des contractions statiques que je montre au patient. Il doit contracter son quadriceps.
C'est l'auto-éducation.
Voilà, c'est l'auto-éducation. Il faut que le patient soit... C'est-à-dire, il doit participer. C'est-à-dire, il fait des contractions isométriques sans le mouvement.
Sans bouger.
Qu'on lui apprend en fonction de l'articulation. J'ai donné l'articulation du genou, c'est la plus simple. Ouais. Donc, il contracte à chaque fois, il contracte ses quadriceps. Par exemple, même quand il se met debout, quand elle fait de la vaisselle, la femme, au lieu de se mettre debout comme ça, relâchée devant le potager, il vaut mieux qu'elle comme sorte de gainage. Contracte ses muscles.
Elle contracte
et elle relâche, voilà, au lieu d'être là, elle relâche.
Oui, d'ailleurs, on nous conseille même pour les mains, hein, parce qu'on peut faire une tendinite de la main ouvrir, fermer comme ça, comme une debza.
C'est des contractions.
Voilà. Ça aussi, c'est bon. Docteur Ashley, professeur Ashley,
Si vous permettez aussi, il faut faire des pauses, répéter. Il ne faut pas surmener ce muscle ou ce tendon pendant des heures et des heures. Il faut savoir s'arrêter au moins chaque 30 minutes, donner une séance de repos, des étirements pour ne pas aggraver la situation. Donc, il faut une bonne gestuelle. Donc, il faut avoir des bonnes postures. C'est très important parce que les mauvaises postures entraînent aussi des contractures musculaires et ça va tirer sur le tendon et ça va être une source de douleur. Donc, savoir aussi faire des pauses, c'est très important. Des pauses, faire des étirements, et c'est-à-dire faut toujours commencer par un échauffement et puis avant l'activité et puis après l'activité c'est les étirements. Donc ça c'est très important je pense pour que soulager et pour se prévenir donc la survenue des.
Je peux encore compléter. Il faut éviter les mouvements qui déclenchent les.
Voilà
les mouvements qui déclenchent la douleur. Par exemple pour l'épaule.
Les brusques.
C'est-à-dire les mouvements. Il y a certains mouvements qui déclenchent
la douleur.
Par exemple, je vais vous dire pour l'épaule, rassurer les patients vers le haut, prendre un objet par.
Très haut.
Il faut prendre un tabouret, se mettre au niveau de l'étagère, ou l'escabeau, pour prendre cet objet. Il ne faut pas surélever son membre au-delà de 90 degrés. Parce que là, ça déclenche
les habitudes, c'est-à-dire qui déclenche les douleurs. C'est très important.
Oui. Une chose, c'est renforcer ses muscles.
Renforcer
ses tendons, parce que c'est comme ça qu'on peut protéger l'articulation générale.
Professeur Dahou, comment peut-on renforcer ses muscles? Parce que là, c'est franchement, dans tous les cas, on parle beaucoup aujourd'hui de renforcement du muscle. C'est important dans toutes les pathologies, y compris l'ostéoporose aussi, etc. On parle d'où. Bon, c'est vrai que la thérapeutique, elle est là. Il faut avoir recours, justement. On n'a pas le choix. Et heureusement qu'elle est là. Hein. Heureusement qu'il y a les infiltrations. Heureusement qu'il y a les traitements. Heureusement qu'il y a la rééducation. Heureusement qu'il y a tous ces médecins qui nous soignent aujourd'hui. Mais il y a aussi, c'est une question d'hygiène de vie, bonnes habitudes. Quand je parle de bonnes habitudes aussi, il y a aussi l'activité physique. Il y a aussi le poids. Il faut faire attention au poids. Hein. Le poids peut également handicaper beaucoup d'entre nous, c'est pour ça qu'il faut quand même contrôler son IMC, avoir un poids quand même qui nous permette aussi de... C'est pas toujours évident, mais bon, il faut faire avec, professeur. Quand on renforce, quelles sont les activités qui peuvent nous renforcer le muscle? Bon, l'activité physique, le meilleur...
On peut faire de la natation, après qu'il y a des exercices d'étirement qu'on peut faire à la maison, par exemple, à l'aide d'un élastique, exactement. Il y a plein
d'exercices...
De YouTube qui sont publics, qui sont sur YouTube, qui sont supervisés par des médecins rééducation, mais aussi par des rééducateurs, des exercices d'étirement qui peuvent renforcer les muscles du bras et même de la ceinture scapulaire, la natation par exemple. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire la natation, le renforcement à domicile par un élastique, pourquoi pas tous les jours faire 15 minutes d'exercice qui pourrait renforcer la ceinture scapulaire. Après, c'est au cas par cas, bien sûr.
Il y a aussi autre chose, si vous m'invitez, le diabète aussi, c'est un facteur favorisant de survenue de beaucoup de...
L'hypercholestérolémie aussi.
Comment on appelle ça de tendinopathie. Donc aussi, si il est diabétique, la personne doit équilibrer son diabète. Il faut qu'il soit bien traité.
Oui, on revient à l'hygiène de vie.
Le fumeur aussi. Ils altèrent leurs tendons aussi. Il faut qu'il arrête le tabac. Il y a les smartphones, l'utilisation des appareils informatiques. aussi, qu'il faut savoir utiliser et adapter sa posture. Et en tout cas, il y a plein de choses à revoir.
Prendre des charges lourdes aussi favorise justement.
Surtout maintenant chez les jeunes de 18 ans, 10 ans, 12 ans, que j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou.
Oui, ils sont jeunes quand même.
Très jeunes, oui. Tout ça, c'est à cause des mauvaises positions et à cause de ce téléphone qu'ils lâchent pas, H24.
Oui,
donc tout ça,
terrible,
donc tout ça aussi,
ça retentit
énormément. Oui. Donc
ça retentit surtout sur le cerveau,
même sur les muscles,
oui,
les
sur
douleurs.
Le muscle aussi.
Il vient tout jeune, il vous dit que j'ai mal au niveau des épaules, j'ai mal au cou, j'ai mal par-ci par-là, et les pouces, parce qu'il n'arrête pas de manipuler. Voilà, donc il y a plein de choses à faire et à revoir, et surtout insister sur l'activité physique.
Oui. Professeur Jaffar.
Non, je voulais répondre. Je peux répondre pour le patient qui parlait de la chronicité.
Il parlait de la chronicité et il avait, en fait, il a peur que cette tendinite soit chronique. Hein, et nous, on a peur de tout ce qui est chronique parce que le chronique, la chronicité, c'est la durée dans le temps. Mmh, hein, c'est ça.
Plus de 3 mois.
Donc nous avons justement une nouvelle arsenal thérapeutique. On parle des ondes de choc radiales.
Vrai, ouais. Oui. Hein.
Donc pour les.
On vient vous voir alors.
Justement, donc c'est une
séance. Depuis le temps où je dis je viens vous voir, je suis jamais venue. Hein.
En fait, c'est une séance par semaine. On fait 6 séances et la séance elle dure 10 minutes.
Ouais. Ça marche.
Ah, ça marche. Donc, pourquoi ça marche? Je vais vous expliquer. Dans là, une action mécanique, par exemple, pour les ruptures tendineuses. Donc, ce sont des ruptures qui sont là et qu'elles sont faites de façon anarchique. Donc, les ondes de choc, donc, c'est comme un marteau piqueur qu'on va mettre au niveau du tendon pour justement créer une autre rupture tendineuse, mais qui est bien structurée. On va créer une petite hémorragie. Donc, on va ramener du sang frais. Donc, il y aura une meilleure cicatrisation qui est rapide dans un délai normal.
C'est comme la PRP.
Dans un délai normal de 8 semaines. Et puis, on a également, quand il y a une calcification, on va directement avec ces ondes de choc pour casser cette calcification.
Pour compléter ce qui est dit par le professeur Jaffar, nous, quand il y a une calcification, et surtout quand il y a une calcification qui est évidente, ce qu'on fait, c'est une trituration de la calcification
volumineuse,
avec un peu de sérum salé, un peu anesthésique, et ça marche très bien, ça libère rapidement l'épaule, il y a une disparition spectaculaire de la douleur. Ce sont des processus, probablement, qui sont voisins.
Donc, nous avons les ondes de choc radiales qui peuvent traiter ces tendinopathies et ces calcifications.
Résultats.
Ah oui.
Les résultats, ils sont spectaculaires.
Oui. Donc, c'est une séance par semaine.
Vous envoyez des malades, professeur Dahou. Elle en profite dans l'émission.
De toute façon, on est là pour l'intérêt du patient.
Et
c'est un travail qui est multidisciplinaire.
Exactement. Justement, concernant la patiente qui a dit, je ne sais pas d'où proviennent les calcifications. Tout ça pour dire tout ce qu'on a dit jusque maintenant, le diagnostic exact est très important. La clinique, l'interrogatoire, l'examen clinique et les explorations complémentaires dont l'échographie au premier plan. Mais aussi le diagnostic étiologique. Il est très important d'identifier la cause des calcifications. Parce que la dame a dit, moi j'ai des calcifications mais je ne sais pas d'où ça provient. Ça peut être tout simplement ce qu'on appelle nous un rhumatisme à hydroxyapatite. C'est des cristaux qui peuvent se former comme ça au niveau des tendons, mais on en trouve un peu partout. Mais c'est aussi parfois ce qu'on appelle nous une chondrocalcinose. Donc, chère madame, il est important de consulter votre rhumatologue. Il va faire l'enquête étiologique. Parce que ça pourrait être une hyperparathyroïdie qui aurait les choses compliquées, qui aurait favorisé l'installation de chondrocalcinose et donc de calcification.
Si vous permettez rapidement, est-ce qu'on peut répondre au monsieur qui parlait de la ceinture,
L'ombalgie.
C'est pas vraiment le thème de l'émission, mais puisque vous êtes rhumatologue, j'aimerais bien que vous répondiez peut-être à notre auditeur.
Il n'y a pas de problème. Je vais répondre au monsieur qui a rapporté des douleurs le long, il a dit de la ceinture.
D'abord, c'est très douloureux.
La première cause qu'il faut savoir, la première chose qu'il faut faire, il faut écarter ce qui n'est pas ostéo-articulaire, ce qui n'est pas une lombalgie. Oui. Parce que la ceinture, peut-être, cette douleur pourrait être en rapport avec une atteinte, un problème rénal. Donc déjà, ou colique, même le côlon peut donner des douleurs projetées. Quand on aura écarté tout ça, si votre médecin a écarté tout ça et que c'est des douleurs lombaires, que c'est des douleurs lombaires, parce que vous avez rapporté des irradiations basses, des sciatalgies. Là, il faut voir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la région allant de L1 jusqu'à la première vertèbre sacrée. Donc c'est là, et donc il faut voir ce qui se passe sur le plan radiologique.
radiologique ou scanographique ou l'IRM. Et c'est le médecin qui va indiquer décider tout ça.
Et oui, je pense qu'en attendant de voir le médecin, il faut qu'il évite la position penchée en avant pendant longtemps, qu'il, s'il est obèse, il doit maigrir. Il y a plein de mesures d'hygiène qu'il doit quand même respecter.
En fait, c'est des mesures hygiéniques ou diététiques aussi. L'alimentation est très importante. La posture et aussi l'activité physique. Un dernier mot peut-être, professeur Jafar Habib, pour la prévention de ce type de tendinite ou la thérapeutique quand on a des tendinites comme ça rapidement.
Donc pour la prévention, chez le sportif, il doit faire un échauffement.
Très bien.
Donc c'est très important. Et puis pour les autres sujets, pour éviter toutes les tendinopathies, il faut avoir de bons muscles. Oui. Pour que la charge ne va pas carrément sur les tendons et sur les os.
Il ne faut pas les inventer, ces bons muscles. Enfin, les renforcer.
Il faut faire une activité.
On commence déjà dans les studios.
Et quand ils sont chez nous, donc en fonction de chaque tendon, on va renforcer, c'est-à-dire spécifiquement le tendon qui est touché.
Voilà, renforcement du tendon. Professeur, un dernier mot peut-être.
Un dernier mot.
Un conseil ou nous.
Oui, un
nous
conseil.
Une activité.
L'éducation thérapeutique du patient est très importante. Impliquer le malade dans la prise en charge de son affection, tout lui expliquer. Quand on explique tout, le malade adhère au traitement.
Adhère au traitement.
Après, c'est au cas par cas. Donc, ne vous traitez pas d'automédication, s'il vous plaît. Consultez votre médecin, et c'est le médecin qui va décider de votre programme thérapeutique.
Voilà, c'est votre médecin, professeur Haché, peut-être un dernier mot.
Oui, comme elle a dit, Madame Dahou, devant toute douleur persistante, il faut consulter. Parce que c'est pas toute douleur de l'épaule, ça veut dire une tendinopathie. Il peut s'agir d'une arthrite, il peut s'agir d'autre chose, des douleurs projetées. Donc il faut, comme elle avait dit, il faut bien consulter afin d'étiqueter la cause de cette douleur. C'est très important.
Et puis parfois la thérapeutique, on parle beaucoup des infiltrations. Attention aux infiltrations, c'est vrai que ça soulage énormément. Mais il faut pas en faire beaucoup parce que ça bousille après le tendon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le pratiquer par un praticien, un rhumatologue ou un rééducateur.
Il faut qu'il y ait une bonne indication.
Oui, une bonne indication pour une infiltration. Ne faites pas comme ça à tort et à travers. Oui. Voilà. Et puis de l'activité physique, l'échauffement, comme dit professeur Jafar Habib.
Renforcer ses muscles.
Vous pouvez aller sur YouTube. Comment renforcer ses muscles, maintenant, ça, par exemple, c'est permis d'aller sur YouTube et de voir un peu tous les exercices qu'on peut faire. Allez. On va commencer dès aujourd'hui à faire ces exercices pour renforcer ses muscles. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Klimo qui était à la console technique, à Jawida Zekad à la réalisation, Nesrine à la régie d'antenne, Célia Labou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain, même à ma station. Au revoir.